journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le gouvernement s'emploie à réduire la dépense publique et demande aux Françaises et aux Français des efforts, précisions et explications dans un instant de Benoît Bouscarel. Le référendum constitutionnel au Burundi, chambre de validation d'un pouvoir confisqué par le président Pierre Nkurunziza, analyse de Sarah Maquet. Godard, de l'affiche à la palme, à Cannes, palme spéciale pour son livre d'images. Que dit Jean-Luc Godard de nos vies, de nos guerres? Nous serons en ligne avec l'ancien directeur de la Cinémathèque française, Dominique Paigny. À la fin de cette édition, la face cachée du Globe, signée Éric Desgalas. Il va falloir retrousser les manches, une constante dans le discours politique depuis toujours ou presque. Quel exécutif n'aura pas lancé Paris appel à la collectivité souveraine? Le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est fait ce matin le porte-voix du gouvernement. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Mathieu.
Benoît, Bruno Le Maire a tout simplement confirmé la baisse des aides sociales.
Au surlendemain de la fuite et de la publication dans les colonnes du Monde d'un rapport de Bercy préconisant de tailler de manière sensible dans les aides sociales, on attendait évidemment avec impatience la parole du ministre qui non seulement n'a pas renié ce rapport mais qui en plus en a repris quelques-uns des attendus en présentant les baisses à venir donc comme des évidences mathématiques puisque les aides sociales représentait, a-t-il dit, chiffre repris dans leur rapport, un chiffre de 2016, un quart de la dépense publique. Bruno Le Maire était tout à l'heure chez nos confrères d'Europe 1.
Expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français. Il y a des inégalités importantes liées à la formation, liées à la qualification, à l'emploi et au chômage. Et nous compensons ces inégalités importantes en France par des aides sociales toujours plus élevées. Eh bien nous voulons rompre avec cela, traiter les inégalités à la racine, en formant mieux, en qualifiant mieux, en donnant des emplois.
Un plan pour l'éducation et la formation qui passe notamment par une meilleure adaptation du système aux besoins des entreprises, on connaît ça. Voilà donc la recette qui permet, d'après Bruno Le Maire, d'envisager la baisse de diverses prestations, sur quoi il n'a pas été plus précis ce matin. Cela dit, si on reprend le rapport de Bercy émanant de la direction du budget et dévoilé par Le Monde, on sait que parmi les pistes étudiées pour alléger les prestations sociales figure l'idée de ne plus indexer leur progression sur l'inflation ou encore de prendre en compte le patrimoine des bénéficiaires et non plus leur seul revenu. Une réunion de cadrage budgétaire est prévue mercredi à Matignon.
Merci à vous, Benoît Bouscarel. Bruno Le Maire s'est également dit préoccupé par l'horizon politique que s'est prêté l'Italie. Si le nouveau gouvernement ne tient pas ses engagements sur la dette, le déficit et l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité de la zone euro qui serait menacée. Fin de citation, l'on saura en fin de journée si les adhérents de la Ligue approuvent le programme commun coécrit avec le mouvement 5 étoiles. Washington a trouvé un consensus avec son banquier, la Chine. Les deux grandes puissances enterrent la hache de guerre commerciale. Les États-Unis pourraient réduire leur déficit commercial avec Pékin. Il s'élevait l'an passé à 375 milliards de dollars. Un cessez-le-feu signé il y a quelques heures entre le régime syrien et l'organisation État islamique dans le sud de Damas, dans la localité de Hajar al-Aswad et le camp palestinien de Yarmouk où sont retranchés des effectifs djihadistes. Des évacuations pourraient, prudence requise, pourraient commencer dans les prochains jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les premiers résultats partiels du référendum constitutionnel burundais, sans surprise, après dépouillement d'environ 70% des votes, le oui l'emporte largement. Cette réforme de la constitution est destinée à permettre au président burundais, Pierre Nkurunziza, de... Il est en poste depuis 2005, par exemple, d'éventuellement rester au pouvoir jusqu'en 2034. Bonjour Sarah Maquet.
Bonjour.
Sarah, un référendum de nouveau dénoncé par l'opposition.
Le processus électoral n'a été ni libre ni transparent, encore moins démocratique. C'est par cette déclaration que la coalition d'indépendants Espoir des Burundais a annoncé hier qu'elle ne reconnaît pas les résultats du référendum. Les Imbonerakure, la milice du parti au pouvoir, auraient notamment fait du porte-à-porte jeudi pour forcer les électeurs à voter oui. Autre annonce hier, celle du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Le regroupement de 19 pays retire au Burundi l'organisation de son sommet prévu en juin. Alors, aucune raison officielle à cette annulation, mais selon un diplomate burundais, l'organisation aurait, je cite, « cédé aux pressions de l'Union européenne ». La communauté internationale qui tente effectivement sans succès d'intervenir depuis 3 ans au Burundi, depuis ce printemps 2015, quand Pierre Nkurunziza a déclenché une crise dans son pays en revendiquant un troisième mandat. L'Union africaine puis l'ONU ont voulu envoyer des missions au Burundi, décision rejetée par le président qui a ensuite retiré son pays de la Cour pénale internationale. La CPI a ouvert une enquête. Elle estime qu'il y a eu depuis 2015 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés burundais. Rien pourtant ne semble pouvoir arrêter Pierre Nkurunziza. Avec la nouvelle constitution, il instaure une monarchie de droit divin. La nouvelle constitution met aussi en danger l'équilibre des accords d'Arusha, équilibre trouvé en 2000 entre Hutu et Tutsi suite à la guerre civile burundaise. Guerre civile qui avait fait 300 000 morts et dont l'ombre plane aujourd'hui dangereusement sur l'avenir du Burundi.
Merci à vous, Sarah Maquet. Il est 12h et presque 36 minutes. Vous écoutez le journal de France Culture. On a fait le choix de prendre un peu de temps, un peu, pour évoquer la Palme d'Or spéciale décernée hier à Cannes à Jean-Luc Godard et son livre d'images. Et nous sommes allés chercher une voix éprise de l'œuvre du cinéaste franco-suisse. Bonjour Dominique Payny.
Bonjour.
Vous avez dirigé la Cinémathèque française. Kate Blanchett, la présidente du jury, a dit hier de Godard qu'il définit et redéfinit le cinéma, mais il bouscule aussi les usages. Palmarès spécial pour le cinéaste.
Oui, c'est le moins qu'on puisse faire. Il est indifférent aux honneurs, on le sait, mais je pense que c'est important d'avoir attiré l'intérêt, le regard des festivals IMO aussi du public sur incontestablement un de ses chefs-d'œuvre. En cela, le sélectionneur Thierry Frémaux n'a pas raté le moment où il fallait en effet le saluer avec ce film qui clive tout le monde de nouveau, mais comme à ses débuts. C'est un film qui relance un certain nombre de grandes haines presque hargneuses.
Vous dites haine, vous dites haine. Ah oui, vous dites haine.
Hein. Je fais partie.
D'accord. Vous dites haine, Dominique Payny, c'est pas un peu fort quand même?
Non, c'est pas fort parce que, par exemple, je me suis beaucoup amusé avec, ça lui plaira sans doute beaucoup à Godard lui-même, l'article du Figaro d'Éric Neuf qui est vraiment déchaîné contre Godard et contre le film. Un collaborateur de France Culture aussi, qui est brillant, Michel Simon, qui est pas content non plus, et il s'est vraiment beaucoup plaint de ne pas avoir suffisamment écouté, entendu. Enfin, il était assez mécontent, hein, et pas du tout acquis. Mais ce film-là, il fallait vraiment pas le rater. C'est comme je sais pas, les grands artistes de tous les temps, Titien, Poussin, Picasso. Bon. Il revient sur son œuvre passée, il revient également sur l'œuvre de ses maîtres, et il redéfinit tout, il repense tout, il resserre tout ce que l'on croyait avoir déjà mille fois servi dans son œuvre pour faire quelque chose d'absolument neuf.
Dominique Payny, vous me disiez tout à l'heure que ça renvoyait à ses débuts, c'est-à-dire à Bout de souffle, dont l'affiche de ce festival a été, comment dire, choisie. Mais alors,
c'est Pierrot le Fou.
C'est Pierrot le Fou, pardon. Qu'est-ce qui nous essouffle aujourd'hui, justement? Qu'est-ce qui nous dit Godard de ça, de nos essoufflements?
Je dis ça avec une petite idée derrière la tête, en effet. Je trouve que c'est un film qui dit un peu la bout de souffle de la modernité qui a engendré au XXe siècle le pire, et en ce moment, au début de ce XXIe siècle, le pire, c'est-à-dire comme si la nature humaine prenait avec la modernité des formes malheureusement contemporaines de destruction, et ça, ce film de Jean-Luc Godard dit ça, mais c'est par ailleurs un film qui dit quelque chose aussi au cinéma, dont on peut penser qu'il connaît aujourd'hui un certain nombre d'impasses, de souffles courts aussi, et de la même manière que Adieu au langage avait été une formidable réflexion sur l'espace, sur les images, sur la perspective sur laquelle il s'est interrogé beaucoup, là, il a repris des images anciennes, il les a repeintes littéralement, aplanies, et c'est le son, un son spatialisé, un son qui tourne autour de nous, qui donne ce sentiment d'espace revisité, nouveau. C'est par le son que l'expérience de la perspective est à vivre. Non, c'est un grand chef-d'œuvre.
Bon, merci infiniment en tout cas d'en avoir parlé de la sorte. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Dominique Payny. Il est 12h et presque 40 minutes. Et vous écoutez Journal de France Culture et la face cachée du globe, signée ce dimanche Eric Bigala. Bonjour Eric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Dans l'actualité de cette semaine, ce qui aurait pu vous échapper, lundi, on apprenait qu'un fonctionnaire britannique sur 10 travaillant à la Commission européenne avait déjà demandé un passeport d'une autre nationalité européenne depuis le Brexit. Sorte d'assurance pour ces fonctionnaires européens, avec parfois 20 ans de service et qui ne voudront probablement pas quitter la Commission une fois que le Brexit sera effectif. Mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan donnait une interview à la chaîne économique Bloomberg. Il y annonçait vouloir reprendre le contrôle de la Banque centrale turque après sa probable réélection à la tête du pays le 24 juin prochain. La perspective de voir la banque centrale perdre son indépendance faisait immédiatement chuter la monnaie turque qui a déjà perdu un bon tiers de sa valeur en 6 mois. Mercredi en Malaisie, c'est l'opposant historique au pouvoir Anwar Ibrahim qui était libéré de prison suite à une grâce royale. Il pourrait conduire le futur gouvernement du pays. Ce jeudi, et alors que le débat sur la privatisation éventuelle de la SNCF en France continue à alimenter les chroniques, voilà qui pourra donner du grain à moudre aux cheminots français, cette décision de la Grande-Bretagne de renationaliser la liaison ferroviaire entre Londres et Édimbourg, motif l'incapacité de l'opérateur privé à atteindre une rentabilité suffisante, Marie-Pierre Véraud.
Cela fait à peine 3 ans que Stagecoach avait pris l'exploitation de ces quelques 600 kilomètres d'une ligne très fréquentée reliant Londres à Édimbourg, en passant par York, Leeds ou encore Newcastle, une franchise accordée pour 8 ans en échange du versement à l'État de 3,3 milliards de livres, un peu moins de 4 milliards d'euros. Mais l'opérateur privé n'a pas réalisé les bénéfices qu'il escomptait et s'est trouvé dans l'incapacité de régler son dû au gouvernement britannique, d'où cette renationalisation qui sera effective le 24 juin. Elle serait provisoire jusqu'en 2020 et un partenariat public-privé, mais c'est la 3e fois en un peu plus de 10 ans que le gouvernement vient ainsi suppléer aux carences du privé, ce qui confirme, note l'agence britannique Reuters, les difficultés pour des opérateurs privés de gérer une concession ferroviaire. La décision n'est pas passée inaperçue chez les travaillistes qui militent pour une renationalisation des chemins de fer et les syndicats n'ont pas perdu de temps pour appeler à la nationalisation de l'ensemble des lignes ferroviaires du pays. Il est clair que la privatisation des chemins de fer a déraillé, ironise le principal syndicat britannique, arguant que ce serait mieux pour l'économie, les finances et les usagers que cette nationalisation. Une campagne qui a de plus en plus d'impact en Grande-Bretagne. La privatisation du rail engagée au début des années 90 peine à convaincre. Le service est l'un des plus chers d'Europe. Les trains sont bondés. On ne compte plus les retards, les pannes récurrentes, sans oublier les grèves et les annulations de dernière minute. Les dysfonctionnements pullulent, notamment en raison du saucissonnage de l'exploitation en plusieurs compagnies privées. Ce n'est pas encore une nostalgie de British Rail, du temps où les chemins de fer britanniques appartenaient à l'État, mais cela commence à y ressembler.
Enfin, au Zimbabwe, le pays retient son souffle avant des élections prévues pour cet été, les premières depuis la chute de Robert Mugabe, contraint à la démission mi-novembre. Mais la situation économique du pays est catastrophique. Près de 90% de la population est au chômage et le pays fait face à une importante pénurie de liquidités. Le reportage à Harare, la capitale, de Lisa Fabian.
La foule est compacte dans les rues du centre-ville d'Harare. Les vendeurs à la sauvette occupent une bonne partie du trottoir. Les taxis collectifs se fraient un passage dans la circulation à coups de klaxon. Appuyés contre un mur, une dizaine d'hommes et de femmes brassent des billets de banque. Depuis plus d'un an, Violette survit en vendant des dollars américains en échange d'un transfert mobile.
C'est devenu normal pour les gens d'utiliser de l'argent en plastique, mais c'est difficile parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec nos cartes de crédit ou nos paiements mobiles. Par exemple, les produits des magasins chinois, ils ne prennent que les dollars. Même si je survis en vendant de l'argent liquide, c'est dur.
Le gouvernement zimbabwéen émet depuis 2016 des billets obligataires pour les échanges dans le pays, mais ces billets inutilisables en dehors du territoire tendent aussi à disparaître. Les paiements par carte bancaire ou paiements mobiles sont devenus la norme au Zimbabwe. Pour trouver du liquide, mieux vaut se tourner vers le secteur informel.
À cause du chômage, les gens essaient de survivre la nuit en vendant des produits bon marché en échange d'argent liquide, de vrai argent.
Les caisses du pays sont à sec, faute d'investissements étrangers, de croissance économique et de commerce extérieur. Mais depuis novembre, de nombreuses compagnies occidentales recommencent à s'intéresser au Zimbabwe, selon Brian Mataruka, avocat en droit des entreprises.
Le Zimbabwe a été isolé pendant plus de 15 ans et les partenaires commerciaux ne vont pas réinvestir le pays en une nuit. Mais nous avons besoin d'investissements étrangers directs dans nos sociétés, dans nos imports et une augmentation des exportations et la relance de certains secteurs économiques rentables.
Les investissements occidentaux sont pour l'instant suspendus à l'organisation d'élections transparentes au Zimbabwe.
The country must have friends.
Ces élections doivent être libres et justes. C'est la condition pour que le vainqueur soit reconnu et respecté à l'international pour faire avancer le pays.
Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour la tenue de ces élections qui doivent marquer le grand retour du Zimbabwe sur la scène internationale.
Ainsi se referme la face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Le temps tournera à l'orage sur le sud et l'est du pays. Sur le reste, le soleil résistera. Cette édition a été préparée avec Brice Garcia, à la technique Alex Dang.